Bienvenue à toutes et à tous dans votre podcast On s'en fout, le podcast où l'on parle de tout sauf de football, mais toujours avec un acteur issu du milieu du football. Aujourd'hui, notre invité suisse-allemand, d'origine italienne, entraîneur, ancien joueur professionnel. Il a gagné des titres en Challenge League, en Coupe de Suisse. Bref, il a un très joli parcours. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Uli Forte. Bienvenue Uli.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour, merci bien pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Uli, comme tu sais un peu comment ça se passe chez nous, on revient un peu sur qui est notre invité. On va commencer directement avec toi. Quand tu étais enfant, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Je crois que c'était à Brutizellen hein, que tu es né. Voilà, comment c'était l'enfance du petit Uli Forte?
Mes parents sont émigrés en Suisse en 1969, plus ou moins. Hein. On est arrivé pas à Brutizellen. Eux, ils ne sont pas arrivés à Brutizellen, ils sont arrivés autre part. Mais après, quand moi je suis né, on se trouvait à Brutizellen. C'est pour ça que j'ai passé toute ma jeunesse, si on peut dire ça, en Brutizellen. Et là, j'ai aussi aujourd'hui encore tous mes copains, mes amis, hein, il y a aussi mes parents qui vivent encore là-bas. Et c'est là que tout a commencé, en fond. Hein. C'est là où j'ai commencé aussi à jouer le foot. Moi, je jouais toujours le foot, mais j'allais aussi toujours à l'école. Et c'est tout commencé à Brutizellen.
Et comment ça se passait à l'école? T'étais quel type de garçon? Est-ce que t'étais un garçon qui avait facilement des amis ou le fait que tu sois d'origine italienne, est-ce que c'était un frein? Est-ce que c'était compliqué pour entrer en relation avec les autres ou pas?
Non, nous on était multiculturel à l'époque parce qu'on vivait dans un petit quartier qui s'appelait le Dörfli, hein. Le petit village.
Exactement.
Et là, il y avait tous les nationalités. Il y avait des Espagnols, il y avait des Portugais, il y avait des Suisses, il y avait des Yougoslaves à l'époque. Mm-hmm. Il y avait toutes nationalités. C'est pour ça que l'intégration, ce n'était pas du tout un problème. Hein. Et l'intégration la plus grande, c'était... En effet, c'était le foot. On prenait le ballon, on allait tout le monde allait jouer, et là, on était tous ensemble.
C'est tes parents qui t'ont parlé de foot la première fois ou comment c'est venu? Est-ce que c'est, comme tu le disais, hein, avec tes copains en bas de la maison, sur le terrain, sur l'herbe, ou ta première rencontre avec le football, c'était comment?
Officiellement, c'était mon père qui m'a apporté au club. C'était le FC Brutizellen à l'époque. Moi, je me souviens bien avec un sac de Migros, hein, de papier à l'époque. J'avais mes souliers, j'avais mes souliers de foot dedans. J'avais un frottier, hein, et je pense que j'avais des culottes. Hein, et là, je me souviens quand on est allé ensemble, on est allé là-bas. Et ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grave. Les petits, ils doivent attendre. Ils ne peuvent pas aller au club et tout de suite jouer. Ils doivent attendre. Ils doivent se mettre sur une liste. Mm-hmm. Et ils n'ont pas le droit de tout de suite, comment on dit, de tout de suite participer. Non? Et ça, c'est, pour moi, c'est grave parce que pour moi, un petit gamin doit toujours avoir la possibilité de jouer le foot s'il veut.
Ouais, ça doit être un jeu. T'avais quel âge à cette...
Je pense que j'avais 5 ou 6, je me souviens plus.
Donc c'était très jeune quand même.
Oui, très très jeune. Et là, officiellement, là, tout a commencé. Mais... Je jouais déjà avant avec mes amis, comme je t'ai dit, dans le quartier. On jouait toujours, on jouait tous ensemble, on jouait tous les types de foot. Et c'est ça qui m'a rendu ma jeunesse très, très, très beau, hein, très, très belle. Hein, très belle parce que tu étais toujours avec les amis. Et ça, c'est une fortune.
Exactement. Et au niveau de l'école, ça se passait comment? Est-ce que tu
as commencé
du plaisir aussi à aller?
Comment?
Est-ce que tu avais du plaisir à aller à l'école?
Oui. J'étais un bon élève.
Ok.
Parce que j'avais aussi mon père qui tenait à ça.
C'était important pour lui.
Oui, c'était important. Lui, il disait toujours, écoute, l'école, elle est beaucoup plus importante que le foot. Et c'est pour ça, pas seulement pour ça, mais aussi ça m'a aidé à suivre bien l'école, à suivre bien l'étude. Après, je fais mon lycée, après, je fais mon université à Zurich. Et c'est lui qui m'a donné aussi là,
le cadre,
la base, la base pour être un bon élève.
Et d'ailleurs, tu viens d'être diplômé de nouveau de l'université de Saint-Gall. Tu as fait un CAS en management du sport avec des résultats assez incroyables, hein, 5 sur 6, donc vraiment excellent. Tu as regardé ce goût de l'école et puis…
Oui, ça c'était plutôt par hasard.
D'accord.
Parce que c'est Christian Lang, ça c'est le frère à Michael Lang, qui conduit les courses là-bas, à l'université de Saint-Gall. Et lui, originairement, il m'a appelé pour un interview. Il voulait faire un interview pour moi. Et moi, j'ai demandé pourquoi tu veux faire un interview. Si je peux te demander, lui a dit oui, c'est pour mon doctorandum.
Doctorat.
Pour le doctorat. Et j'ai analysé tous les entraîneurs dans les dernières 10 années qui ont entraîné au moins 10 matchs en Super League. Et toi, tu es un de ceux qui ont overperformed. Ça veut dire qui ont fait mieux que l'average.
Que la moyenne.
Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire un interview pour le mettre dans mon doctorat, dans le travail qu'il a fait là. Et moi, je dis oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait overperforming, j'ai fait plus que le moyen. Et pareil, il m'a expliqué en détail qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, j'ai dit, OK, on fait l'interview, on a fait. Et après, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses du CAS, du Sport Management course du CAS? Et moi, j'ai dit, oui, c'est intéressant parce que vous, Joe Spierer, par exemple, Christophe Spierer de Young Boys a fait ça. Il a fait le même. Marco Steller était aussi avec nous. Et moi, j'ai dit, oui, c'est intéressant. Pourquoi? Oui, on a encore des places libres. Si tu veux, hein, je peux t'écrire. Et moi, j'ai dit, écoute, donne-moi un, deux jours pour réfléchir et je te retéléphone. Et après un ou deux jours, je le retéléphonais. J'ai dit, écoute, je le fais parce que j'ai le temps. Moi, j'ai fait toujours des stages quand je n'avais pas de club. Je ne sais pas si tu sais. Hein,
j'ai fait à Schalke nous le faire là.
Oui, j'ai fait beaucoup de stages quand je n'avais pas de club parce que je disais, je ne peux pas rester à la maison et faire rien. Moi, je veux toujours améliorer. Et comme il y avait le Covid maintenant, et tu peux aller nulle part,
c'est clair.
Hein, tu peux pas, je pouvais pas visiter Lucien, par exemple, parce qu'il y avait le Covid. Je pouvais pas visiter des autres entraîneurs, des grands entraîneurs. Je pouvais pas visiter Urs Fischer parce qu'il y avait le Covid. Hein. J'ai dit, OK, alors. Si on ne peut pas faire des stages dans les clubs à cause du Covid, je fais ces courses-là. Et je dois dire que c'était très, très important parce qu'il y avait des référents très, très importants, très intéressants. Et on était un groupe assez uni, hein, assez grand.
Beaucoup d'anciens footballeurs ou d'anciens joueurs de
foot? Oui, il y avait Marco Streller, il y avait Alain Neff, qui a aussi fait les courses. Et il y avait Jens Wimmer, un Allemand, qui a joué dans la Bundesliga. Qu'il y avait aussi des anciens joueurs de foot. Sinon, il y avait aussi des autres sportifs. Il y avait des Balama, par exemple, Martin Strobel. Il a joué dans la nationale allemand de Balama. Okay. Il y avait Max Heinzer,
l'escrime.
l'escrime suisse, hein, champion du monde. Non, on était en groupe assez hétérogène.
Hétérogène. Oui, hétérogène.
Et très, très intéressant et très uni. On a vraiment bien passé ce temps-là.
C'est très drôle parce que j'ai moi aussi fait le CAS en management du sport.
Ah oui,
mais à l'université, c'était en 2014-2015. Ouais. À l'université de Lausanne et voilà, j'ai un peu quand tu m'en parles comme ça avec l'unité entre les camarades, les élèves, etc. Puis la richesse aussi des parcours. Ben, nous on a eu Bernard Chaland, Christian Constantin qui sont venus parler des gens du CIO, etc. Et c'est vrai que c'était super riche de pouvoir échanger ces moments avec eux. Et c'est une des études que j'ai préférées dans mon parcours.
Absolument, absolument. Tu entends des histoires très intéressantes et tu peux aussi en profiter bien. Hein. C'est vraiment, tu peux vraiment améliorer dans beaucoup des sens. Hein.
Par exemple, quand tu vas faire tes cours ou tes stages dans les clubs, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte?
Là, tu vois, premièrement, tu vois comment est-ce qu'il travaille, l'entraîneur. Le dernier stage que je fais, c'était décembre 18, je pense, oui, c'était là, décembre 18. Après, j'ai pris Gaetze, oui, décembre 18, c'était le dernier stage que j'ai fait à Leipzig,
okay.
Chez Ralf Rangnick. C'était très, très important parce que l'école de Red Bull, au moment, elle est très, très en mode. Elle est très bonne. Elle est très, très vainqueur. Elle a beaucoup de succès. C'est pour ça que c'était très important. Et j'étais là une semaine. J'ai commencé avec le match Leipzig-Gladbach. Je suis arrivé samedi, je me souviens. Après, j'ai fait toute la semaine. Préparation du match contre Freiburg in Breisgau, ici, à côté de nous. Et le vendredi, eux, l'équipe, Rangnick et l'équipe, ils sont partis de Freiburg, de Leipzig à Freiburg avec l'avion. Et moi, je suis parti de Leipzig à Zurich. Et le samedi de Zurich, je suis allé avec la voiture à Freiburg parce que c'est 1h30, plus ou moins. Et j'ai regardé le match finale de la semaine de préparation que j'ai vécu, où malheureusement ils ont perdu 3-0. Hein. Mais c'était très important parce que tu voyais comment ils travaillent, tu voyais quelle structure ils ont dans le club. C'est vraiment quelque chose de très, très, très grand. Hein. Ils ont fait un campus là-bas à Leipzig. C'est probablement le mieux que tu trouves en Allemagne. Avec Hoffenheim peut-être, mais sont même plus modernes que Hoffenheim parce qu'ils sont venus après de Hoffenheim. Hoffenheim, c'était un pionnier dans ce sens, mais ils sont même encore mieux que plus modernes que Hoffenheim.
Et puis les clubs, comment ils voient ça quand tu leur poses la question, quand tu dis bah, écoutez, actuellement, j'ai pas de club. Ça m'intéresserait, ils ont toujours été ouverts.
Oui, voilà. Rangnick, je dois dire, chapeau, hein, il était très ouvert, il a dit, oui, c'est pas un problème, tu peux venir, mais s'il te plaît, organise tout avec mon assistant. Ça, ils disent toujours, parce que le chef trainer, hein, le premier entraîneur, l'entraîneur chef,
ouais.
Il n'a pas le temps de
s'occuper de toi, ouais,
il doit parce qu'il a toute autre chose dans la tête, il doit gagner les matchs. Et c'est pour ça qu'il m'a donné son assistant, qui m'a venu prendre, qui m'a montré toutes les choses, qui me disait toujours les infos, quand c'est l'entraînement, à quelle heure ils sont où, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est drôle parce que l'assistant à l'époque de Ralf Rangnick, c'était Robert Klaus. Et Robert Klaus, aujourd'hui, est l'entraîneur de Nuremberg. Et deuxième.
Deuxième Bundesliga.
Quand il a reçu le job, là, je lui ai tout de suite félicité. J'ai dit, écoute, bonne chance. Maintenant, la première fois comme entraîneur-chef. Et depuis là, c'est que depuis là que je le suis maintenant, hein, parce que je veux voir qu'est-ce qu'il fait.
Et Nuremberg, c'est quand même un club qui a été longtemps en première Bundesliga aussi. Je ne sais plus quels étaient les Suisses qui sont passés par Nuremberg. Alain Souter, peut-être, ou je ne sais plus.
Alain Souter, il a joué à Nuremberg.
À Nuremberg, il me semble. Hein. Ouais, ouais, il me semble.
Danny Gigax a joué à Nuremberg.
Aussi, effectivement. Et toi, quand tu fais la comparaison avec ce foot allemand, cet état d'esprit allemand, et le foot qu'on peut connaître en Suisse, que toi tu connais avec Saint-Gall, Getze, IB, le FCZ, est-ce que tu vois des choses qui se ressemblent, des similitudes, ou il y a vraiment un gap entre ces deux pensées ou ces deux façons de travailler?
Il n'y a pas un grand gap. S'il y a un gap, c'est dans l'intensité. Mm-hmm. Ça, j'ai noté tout de suite. En Allemagne, dans tous les entraînements, c'est à 100 à l'heure. Même 120 à l'heure.
Souvent, les joueurs disent qu'ils ont... Les Suisses...
Comme des fous.
On a beaucoup de peine à venir en Allemagne.
Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, il y a des entraînements. Chez nous, c'est toujours plus ou moins formé comme ça. Au début de la semaine, on bosse. Là, ça va vraiment aussi dur. On peut pas parler d'un gap là. Mais vers le match, ça se calme parce qu'on a le match après devant et on veut pas se consommer avant le match. Mais en Allemagne, c'est égal si c'est le dernier entraînement, le premier entraînement de la semaine, à 120 à l'heure. Tout le monde, comme des fous. Et ça, j'ai noté d'autres fois aussi, pas seulement maintenant à Leipzig, j'ai noté aussi dans d'autres clubs. J'ai été beaucoup visité Jürgen Klopp quand il était à Dortmund. Il venait toujours à Bad Ragaz en Suisse.
Bien sûr.
Et je le visitais toujours. La première fois que je l'ai visité, c'était 2011, après Saint-Gall, quand j'étais limogé à Saint-Gall, et là, j'ai noté que les Allemands, ils sont, je ne veux pas dire plus durs, mais ils vont 120 à l'heure.
Qu'est-ce que tu as gardé de ton passage à l'école ou au lycée qui t'a amené qui t'a aidé à être entraîneur, à être cette personne que tu es maintenant. Plutôt d'ordre général, quand tu étais plutôt petit, est-ce qu'il y a des choses, des valeurs, des éléments qui ont fait que ça t'a aidé à grandir?
Ok, la chose la plus importante que j'ai appris à l'école, ce sont les langues. Moi, j'ai fait le Neusprachliches Gymnasium, ça se appelait. Mm-hmm. Neusprachlich, ça veut dire lycée des langues. Et ça, j'ai profité beaucoup. Parce que si aujourd'hui je parle six langues, c'est aussi à cause de ça. Parce que j'avais le français comme toujours, comme tout le monde, c'est clair.
Bon, le français comme tout le monde, c'est quand même, tu le parles extrêmement bien, c'est pas facile de parler français.
Oui, mais je l'ai étudié à l'école. C'est pour ça que pour moi, c'est normal. Et on est en Suisse, c'est rien de spécial parce qu'on a quatre langues nationales.
L'italien, tu l'as dans ta famille.
L'italien, c'est ma langue maternelle.
Voilà. Le suisse allemand.
À la maison avec mes parents, je parlais toujours allemand, toujours italien. En école, suisse allemand, allemand écrit. Après, le français, parce que c'est la langue... Attends un moment.
Vas-y.
C'est la langue qui... C'est la première langue que tu apprends en suisse allemande. Et après, l'espagnol, j'ai fait l'espagnol. J'ai fait le portugais. Mm-hmm. Et maintenant, je suis en train d'essayer à apprendre un peu de serbe, bosnique, croate, c'est plus ou moins la même chose, pas tout à fait, mais il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Balkan au moment.
Bien sûr.
C'est pour ça que c'est une langue aussi importante.
En Suisse, en plus, on a beaucoup de ressortissants de la région balkanique.
C'est pour ça que j'aimerais bien apprendre mieux.
Bien sûr.
Le bosniaque, le serbe, le croate, ex-Yougoslavie, pour dire ça. Et ça, c'est la chose que j'ai appris et j'ai à profiter aussi le plus de l'école.
Pour apprendre cette langue, le bosniaque, le serbe, etc., quelle est ta méthode pour apprendre?
Aujourd'hui, avec la digitalisation, tu peux l'apprendre toi-même. Il y a des apps, il y a des programmes sur le computer, sur le classificateur. Il y a beaucoup de possibilités à apprendre toute seule. Il te faut la discipline.
Bien sûr.
Mais pour l'apprendre vraiment bien, à la fin, il faut toujours un prof. Il faut toujours des leçons où tu parles des détails que tu ne peux pas apprendre toi-même. Mais le gros, je parle du gros de la langue pour communiquer, pour s'entendre un peu. Tu l'apprends toi-même.
Tu es quelqu'un de très intelligent, très cérébral. Est-ce que des fois tu arrives toujours quand même à faire passer ton message avec tes collaborateurs, avec les joueurs? Est-ce que c'est pas des fois un peu trop intellectualisé ou pas? Ou comment tu vois
ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire. Des fois, on entendait dire ici, en Suisse allemande, oui, Uli Forte, il est un bon motivateur, mais rien d'autre.
D'accord.
Et moi, je rigolais quand je liais ça dans les journaux, dans les articles du web. Je disais toujours, hey, aujourd'hui, si tu veux arriver en top comme entraîneur, ça ne suffit pas d'avoir seulement quelque chose. Tu dois avoir vraiment toutes les facettes. Il faut avoir toutes les facettes. Tu dois être tactiquement, tu dois être très, très bien. De la part de la motivation, tu dois être fort. Hein, personnalité,
psychologie, langue, aussi,
psychologie, compétence sociale. Il faut toutes les facettes aujourd'hui pour arriver en top. Tu n'arrives pas sinon, c'est pas possible. C'est pour ça que je me défends toujours un peu quand on dit oui, lui il est un type entraîneur comme ça, et lui il est un type entraîneur comme ça. En allemand, on a commencé à parler des laptop trainers.
D'accord.
Je ne sais pas si tu as entendu ça une fois.
Je ne pense pas qu'on l'utilise trop en Suisse romande, je vois ce que tu veux dire.
Laptop trainers sont les entraîneurs qui n'ont jamais joué le foot professionnel. Mais sont très forts dans la théorie, sont très forts sur le terrain avec l'équipe, mais ils n'ont jamais joué eux-mêmes. Par exemple, Nagelsmann, très très fort l'entraîneur, mais il n'a jamais joué professionnel.
Est-ce que ça fait une différence, ça?
Non, pas du tout. Tu dois avoir joué un peu. Si tu as joué pas du tout, je ne sais pas. Si tu me demandes maintenant d'entraîner une équipe de hockey sur glace, je te dois dire, honnêtement, je ne sais pas si je pouvais.
Je crois que tu peux aller à Berne, parce que le CP Berne, je pense qu'ils ont besoin d'un nouveau coach.
Oui, mais ils sont en train de prendre l'assistant de Davos.
Exactement.
Comme il s'appelle, parce que Reto Raffainen, qui est venu maintenant de Davos, il va prendre lui avec. Mais tu sais, si tu n'as pas du tout fait le sport, peut-être ça peut donner des problèmes, je ne sais pas. Mais tout le monde qui a joué, même s'il a joué en deuxième ligue seulement, première ligue ou en troisième ligue, j'ai toujours dit, être un joueur et être un entraîneur, c'est complètement deux choses différentes, complètement. Mourinho n'a jamais joué foot professionnel. Moi, j'ai joué foot professionnel, mais pas au top niveau. J'ai jamais joué en Super League, National Liga A à l'époque. Moi, j'ai seulement joué National Liga B, Challenge League aujourd'hui, à Kriens. J'ai fait là mes 3 années. C'était professionnel, c'était structure professionnelle. On a eu des entraîneurs très, très, très bons. C'était Jürgen Seeberger, par exemple. C'était Fritz Schmidt. Après, adjoint à Gross à Bâle. Mm-hmm. C'était Longo Schöneberger. C'était Biggie Meyer une fois, quelques matchs. On avait de bons entraîneurs. C'était une structure absolument professionnelle. On s'entraînait même deux fois par jour, mais on ne gagnait jamais comme PSG ou comme Barcelone ou comme Bâle ou comme Zurich. On prenait vraiment peu d'argent.
Bien sûr.
Mais c'était une structure professionnelle. C'était vraiment bien.
Est-ce que ça a changé, ça, l'argent, toutes ces choses dans le milieu du foot?
Ça a augmenté, mais pas dans la Challenge League, si on reste maintenant là, sur ce niveau-là. Dans la Challenge League, c'est toujours bas, hein? Les salaires sont bas, il y a beaucoup de joueurs qui travaillent.
C'est intéressant parce que le public, quand il parle des joueurs de foot, il a l'impression qu'en Suisse, ils ont tous le salaire de Lionel Messi, peut-être.
Non.
Et on est loin de ça, quand même.
On est très loin de ça. International, international, on n'a rien. Mais nous, on a des gaps, grands gaps entre la Super League, même la Super League, et entre la Super League et la Challenge League. Grand gap. Parce que il y avait des joueurs en Challenge League qui prennent, je ne sais pas, 500 francs, 400 francs, 1000 francs. Il y a ça. Ça, ce n'est pas très beaucoup. Ça, ce n'est pas vraiment beaucoup.
Ouais.
Et des fois, ou beaucoup des fois, ils travaillent à côté du foot. Et ça, c'est dommage. Ça, je trouve dommage. Parce que aussi, un joueur de Challenge League, aussi, il se doit préparer professionnellement. Il doit se préparer mentalement aussi, très, très fort. Sur le match, sur l'entraînement, et s'il a un job à côté du foot.
Il perd de l'influx aussi, comme ça.
Il perd de l'énergie, il perd aussi la mentalité des fois, parce que si tu as travaillé tout le jour et tu viens à Kriens et tu as un entraînement, tu es complètement fatigué. Hein?
Ouais, suivant le job que tu fais, tu n'arrives plus à marcher après, à la fin de la journée. Donc...
Moi, je me souviens. Moi, j'avais l'avantage à Kriens quand je jouais là-bas que j'étais étudiant et j'avais beaucoup de temps. Mais je me souviens qu'il y avait des joueurs qui travaillaient en édilice, comme on dit, comme carpentier, comme on dit.
Ouais, charpentier.
Charpentier. Et ouais, charpentier. Il venait le soir, à l'entraînement et il était complètement blanc, tu sais, à cause du comment on dit, gips, gess,
ouais, du J.
Mm-hmm. Et il s'enlevait les vêtements et tout de suite sur le terrain et entraînait. Ouais. Ça, à la longue, c'est dur, hein.
Effectivement, suivant le job que tu fais, mais même si tu es assis toute la journée dans un bureau, effectivement, pour changer après les habitudes, te remettre ton corps au travail, c'est compliqué. Tu me parlais d'une chose très intéressante que j'ai notée tout à l'heure, de ce qu'on pouvait lire ou entendre dans les médias. Toi, Uli Forte, comment tu vis quand tu es entraîneur ou quand tu es en recherche d'un poste? Comment tu vis les critiques? Comment tu est-ce que tu lis les articles, Blick, etc.? Est-ce que ça ne touche pas?
Je te dois honnêtement dire que quand j'ai un club, je lis presque rien.
Parce que je pense que c'est mieux.
Ça te dérange seulement. Ça te dérange seulement. Je lis plus quand ça marche bien, hein, parce que ça fait du plaisir, c'est clair.
Exactement.
Ça fait du plaisir. Le lendemain, après la victoire, la grande victoire à Bâle ou la grande victoire à Berne ou la grande victoire n'importe où, c'est bien d'ouvrir les journaux, hein, parce que tu sais, peut seulement écrire positif. Et c'est pour ça que je lis pas beaucoup les journaux quand j'ai un club. Quand j'ai pas de club, je lis beaucoup. Je lis beaucoup parce que, première chose, j'ai le temps. Deuxième chose, je dois lire beaucoup parce que je dois rester informé. Tu sais jamais quand ça peut recommencer tout de suite. Tu dois être là, tu dois être tu dois être tout de suite formé. Mais quand j'ai le club, quand j'ai l'équipe, presque rien. Presque rien. Souvent, je fais ça. Je sais qu'il y a un article, je le prends, je le sors du journal, et je le mets sur
à côté.
Sur un staple, comment on dit.
Okay. Tu fais un tas avec les articles.
Ouais. Et quand j'ai fini après avec le club, avec l'équipe, quand ils me limogent, quand je suis limogé, souvent je prends tous les articles et je les porte à la maison. Et là, j'ai le temps de tout relire après. Mais pendant les clubs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, première chose, si tu lis 10 journaux, tu as 10 avis différents. Après, si tu lis trop et tu mets trop d'importance sur l'article, tu te perds. Tu dois avoir vraiment tes idées bien fixées. C'est normal que tu dois toujours un peu être flexible. Mais ça, tu ne parles pas avec les journaux. Tu parles avec ton staff, avec tes adjoints, avec tes collaborateurs dans le staff. Et là, tu peux toujours changer des avis. Mais les journaux, ce n'est pas le cas.
Mais c'est très intéressant parce que ce job que tu as quand tu es entraîneur, il est soumis à tellement de pression, peu importe la ligue ou peu importe le niveau, que monsieur et madame tout le monde, le public lambda, ne voit pas. Et je trouve que c'est aussi intéressant de ce que ça t'apporte et ce que ça t'enseigne, ce que ça t'apprend sur toi, de prioriser, de mettre de côté des choses, d'essayer de pas que ça t'atteigne, de te protéger, de faire un peu comme une tortue, une carapace et de faire une protection.
Ça, c'est une qualité assez importante pour un entraîneur, d'être bien solide.
Pas trop sensible, peut-être.
Pas trop sensible sur qu'est-ce que ça veut dire de recevoir des critiques, lire des critiques dans les journaux. Là, tu dois être assez solide comme entraîneur. Tu dois avoir la capacité d'oublier ou de même pas faire entrer. Et ça, c'est toujours un peu en balance parce que sur un côté, tu dois entendre qu'est-ce qu'ils disent parce que plus ou moins, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Mais sur l'autre côté, tu ne dois te pas faire influencer parce qu'à la fin, c'est toi qui mets les idées, c'est toi qui mets la stratégie, c'est toi qui mets la philosophie. Et on doit suivre ta philosophie. Et si tu commences à mettre les avis des autres, ce n'est plus ta philosophie. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je préfère être limogé avec mes idées parce qu'après, je peux dire, j'avais tort.
C'est de ma faute.
C'est ma faute, j'avais pas raison, j'ai fait une faute, que de prendre ce avis-là, notre avis de l'autre pas, et à la fin, tu dis, ah, pourquoi est-ce que j'ai entendu tous ces gens-là? Je pouvais faire mon chemin sans changer à droite et à gauche, non? Frank Sinatra a une fois chanté « I did it my way ». Ça, c'est un peu
ce que tu fais.
Ça, c'est un peu ce que tu devrais faire.
C'est très difficile d'être entraîneur parce que les joueurs, s'ils adhèrent plus forcément à ton discours ou à, voilà, ils entendent aussi des choses tout d'un coup. J'étais là, par exemple, pour le match quand tu étais à Getze contre Stade Lausanne. On voit qu'il manque quelque chose dans l'équipe. Toi, tu peux...
Tout ça, quand on a perdu 4-1.
Oui, exactement. Il y a déjà l'autre coach est déjà là dans les tribunes. Enfin, c'est très très spécial à vivre. Comment toi tu vis ça dans ta tête?
Ça aussi tu dois mettre à part, parce que tu peux pas porter tous ces problèmes là dans l'équipe. Il faut toujours couvrir, il faut toujours protéger l'équipe. Ça c'est important. Aussi quand tu as problème de pression avec le président, avec le board, avec le conseil et tout ça. tu dois toujours un peu protéger les joueurs parce que les joueurs doivent toujours se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le foot. Mais si tu parles de ce match-là, c'est bizarre parce que si tu as vu au début, on a 2-3 chances nettes hein, pour marquer. Et à la fin, on a un carton rouge.
Il y a une expulsion, exactement, ça change le match.
Baba Soare, même lui, avait une grande occasion devant le but, 5 mètres pour marquer. Tu vois, s'il marque, des fois, si les joueurs, ils marquent, ça change complètement le match. Et ça aussi, ça, tu dois aussi être capable d'accepter. J'ai beaucoup des amis qui étaient grands joueurs, grands, vraiment grands footballeurs. Ils ont joué avec moi à Bruxelles, des grands talents. Mais ils disaient, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre. Quand je perds, je me perds moi-même. Je suis complètement perdu. Pour pas dire, je ne sais pas si on peut dire chez toi, je suis complètement foutu. Ça, c'est une capacité que tu dois avoir. Tu dois être capable de gérer aussi les défaites.
Mais comment tu te protèges, toi? Parce que j'entends bien, tu protèges l'équipe, tu protèges les joueurs, etc. Parce que les problèmes, tu les as d'en bas, tu les as d'en haut, tu les as de tous les côtés. Comment toi, tu arrives? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu arrives dans ta famille ou des fois, est-ce que quand tu prends ta voiture après le match ou après l'entraînement, tu dois faire un moment où tu restes une heure seul ou pour faire décompresser ou gérer cette situation?
Une chose qui m'a toujours aidé, moi, personnellement, égoïste, hein, si on peut dire ça, c'est le sport. Mm-hmm. Toujours faire du sport, surtout course. Moi, à l'époque, quand j'avais les clubs, je faisais beaucoup de jogging. Parce que dans le jogging, tu es toi-même, avec toi-même, et tu réfléchis beaucoup, parce qu'il n'y a personne qui te doit parler. Et là, il te vient, beaucoup de fois, il te vient de très, très bonnes idées. Mais ça, c'est pour moi-même, type égoïste. Ça, seulement ça, tu peux pas faire parce que sinon tu mords toute seule, non? Et après, c'est important d'avoir un umfeld, comment dire en français, un umfeld, un entourage très très bon. Moi, j'ai quelques amis, pas beaucoup, mais quelques amis très très bons, vraiment intimes. J'ai mon frère qui a 6 ans moins de moi, qui est mon plus grand critiqueur. Critique, comment on dit?
Critique.
Critique le plus, mais aussi qui me pousse le plus. Et ça, c'est important. Maintenant, avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, maintenant il y a 5-6 ans que j'ai ma femme, Caroline, qui aussi m'aide beaucoup dans ce sens-là. Tu dois avoir un entourage solide, bon et gesund. Comment on dit gesund?
Sain.
Sain. Sain. Tu dois avoir un entourage sain qui te prie un peu quand tu veux voler et qui te lève aussi quand tu es en tronc bas, tu sais. Et ça, j'ai toujours eu aussi ma famille. Avant que j'avais Caroline, j'avais ma famille avec mes parents, mon frère. Et là, quand j'étais pas encore marié, c'était comme ça que le soir avant le match, j'étais toujours chez mes parents et je mangeais là avec eux, toujours, n'importe quoi, n'importe quel match c'était, j'étais toujours là. Si on partait un jour avant pour le match, j'allais 2 jours avant le match, j'étais
un peu le retour aux sources en fait. Pour être calme, posé, reprendre l'énergie.
Ouais. On parlait même pas toujours du foot, parce que ma mère, elle connaît pas le foot. Elle connaît pas le foot. Je te fais un exemple. Il y avait, à l'époque, quand j'étais entraîneur de Getse, que j'avais pas encore Caroline, comme ma femme. J'avais le souper avec ma famille, hein. J'allais à la maison et ma mère disait tout. Vous avez entraîné aujourd'hui? Je lui ai dit oui, oui. Vous avez entraîné dehors? Oui. Avec ce temps-là, vous avez entraîné dehors? Seulement pour te faire un exemple. Elle ne connaît pas du tout le foot. Pas du tout. Hein. Et ça me donnait aussi beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie parce que tu pouvais recharger une batterie comme ça.
Et tu pouvais parler d'autres choses aussi.
Et ça, pour moi, c'est la chose essentielle pour gérer toute la pression.
Le temps file dans cette conversation avec Uli Forte. Je vous propose à toutes et à tous de faire un break et de nous retrouver ultérieurement pour la deuxième partie de cette interview fort intéressante.